soir. Y a-t-il des nouvelles, des nouveaux participants? Merci. Donc, je vous explique très rapidement comment on procède. Il n'y a pas de thème prédéfini. Chacun, chacune arrive avec des propositions en tête. Donc, voilà. On va recueillir les différentes propositions, les différentes questions sur lesquelles vous voudriez discuter ce soir. On procède à un vote très rapide en début de séance et ensuite on lance la discussion. Voilà. Donc, je veux bien vous entendre. Voilà, si vous avez quelques idées de débat à proposer ce soir à l'Assemblée, soit sous forme de questions, soit un concept, une thématique.
Je pense qu'il faut l'ouvrir.
Bonjour. Donc, moi aujourd'hui, je proposerai la place du genre et son identité à l'heure actuelle.
La place du genre et son...
du genre et de son identité dans le monde actuel.
La place du genre et de son identité dans le monde actuel. La place du genre et de son identité dans le monde actuel.
Moi j'en ai deux.
Oui.
Alors le premier, c'est Malraux a dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Donc la question c'est qu'est-ce que c'est que la spiritualité pour chacun, etc. Et la deuxième.
Marie-France note. Donc première thématique, à partir de la citation de Malraux sur une sorte de prédiction sur le 21e siècle, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Question, qu'est-ce que la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité? Oui.
Et puis le deuxième sujet, c'est notre vie au quotidien, c'est-à-dire l'instant présent, versus toutes les questions qu'on se pose. Parce qu'en fait, c'est très très virtuel les questions qu'on se pose par rapport à notre quotidien, qui n'est pas si mal que ça finalement. Donc voilà, une réflexion...
sur la,
cette espèce de schizophrénie qui est entre réfléchir sur des sujets qui ne nous touchent pas réellement, mais qui sont très médiatiques, et franchement notre quotidien qui finalement voilà, se passe comme il se passe.
Oui, j'essaie de formuler ça sous forme de question.
Oui, c'est pas évident. Mais bon, l'idée, c'est ça. Quoi.
Oui, je comprends. Peut-on vivre... Non, ça, c'est faussé. J'allais dire, peut-on vivre le temps présent? Peut-on vivre le quotidien?
Non, ça serait du style... comment finalement notre instant présent construit finalement ce monde? Alors quelque part, ça sert à rien. C'est notre état dans l'instant présent qui va construire le monde de demain et pas tellement toutes les questions qu'on se pose à remettre en question ce qui existe déjà, quoi, et qui est périmé quelque part, enfin qui fonctionne pas. Quoi.
Ah oui, à l'inverse. Oui. Notre imaginaire nous détourne-t-il
de notre quotidien?
Oui, on peut le voir comme ça, sauf que l'imaginaire il est vu un peu négativement, alors qu'en principe ça fait planer.
Mais justement, ça peut être l'objet d'un débat. On va pas lancer. On va formuler effectivement, merci monsieur pour votre reformulation. Notre imaginaire, on va faire comme ça, nous détourne-t-il de la vie présente ou du quotidien, ou des enjeux du quotidien? Donc, un premier sujet sur la question du genre, un second sur la spiritualité, puis un troisième sur les enjeux de la vie quotidienne. Oui ?
Alors, du coup, je me posais la question de l'avenir de la mondialisation dans une ère où le pétrole et les énergies fossiles s'amoindrisent.
Là, je ne suis pas compétent. Non, mais au sens où voilà, il faudrait parler de pic énergétique, et ça sera. Je ne vais pas. Ou alors reformuler la question différemment sur y a-t-il un avenir pour un monde mondialisé?
Oui,
voilà, de manière plus large, mais si vous entrez dans des considérations économiques ou géopolitiques ou énergétiques, ça va dépasser mon seuil de compétence. Enfin, j'aurais pas plus d'avis que vous, en fait, sur la question. Parce que Spinoza parle pas trop du pic énergétique.
Oui.
Alors, moi, j'aurais une question par rapport au tabou. Et en fait, aujourd'hui, on a une sorte de valorisation de briser les tabous, que, voilà, les lanceurs d'alerte, des choses comme ça. Et en même temps, les tabous, c'est corollaire du sacré, c'est une construction sociale qui devrait avoir un sens. Et du coup, je me demande jusqu'à quel point c'est bien de les briser ou pas. Est-ce qu'il faut tous les briser Voilà, donc faut-il briser tous les tabous?
Très bien. Faut-il briser les tabous, ou tous les tabous, si on veut être encore plus précis? Faut-il briser tous les tabous?
Alors,
oui, bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas comment formuler mon thème, mais j'ai envie de dire, faut-il en finir avec le sport?
On est à 500 jours, jour pour jour, des Jeux Olympiques de Paris. Faut-il en finir avec le sport?
On pourrait commencer par le définir, mais effectivement, il y a ça. Je parle bien du sport et pas de la pratique physique.
Oui, je vois à peu près ce que vous avez en tête dans les enjeux, mais faut-il en finir avec le sport?
Avec son impact.
Vous savez, c'était la devise de William Churchill. Hein. Pas de sport. Bonsoir.
Bonjour. J'en ai une qui vient. C'est un thème, c'est autour de la responsabilité. Sommes-nous responsables, sommes-nous pleinement responsables de chaque chose?
Sommes-nous pleinement responsables de chaque chose? Donc, sur la notion de responsabilité individuelle et collective. On a déjà pas mal de questions et assez diverses dans leur champ d'étude. Est-ce que vous auriez d'autres propositions? Vous ne soyez pas frustré. Oui, oui. Donc, de mémoire, Marie-France, la première question, c'était sur la question du genre et de l'identité.
Alors, c'était la place du genre et de l'identité.
Dans le monde actuel. Donc, deuxième question, on fait peut-être un inventaire avant de passer au vote.
Qu'est-ce que la spiritualité?
Qu'est-ce que la spiritualité?
Troisième question, notre imaginaire nous déconnecte-t-il des enjeux du quotidien?
Oui, en reformulant la proposition.
Faut-il briser tous les tabous? Puis, faut-il en finir avec le sport? Et sommes-nous pleinement responsables de chaque chose?
Très bien. Alors, première question... On peut voter pour autant de questions qu'on veut au départ. C'est ça la vraie démocratie. Et pas autoritaire. Donc, première question, donc, sur la place du genre et de l'identité dans nos sociétés actuelles. Alors, je vous laisse. Place du genre et de l'identité dans nos sociétés actuelles. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deuxième question sur la spiritualité, je crois. Qu'est-ce que la spiritualité? En lien avec la citation de Malraux que vous avez rappelée. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
troisième question, par rapport à l'intervention de la proposition de madame sur le quotidien. L'imaginaire, on avait reformulé ça ainsi, l'imaginaire nous détourne-t-il des enjeux du quotidien ? C'est sur disjonction entre les questions qui sont les nôtres et puis notre vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Troisième question, dans l'ordre, je ne me rappelle plus.
Faut-il briser tous les tabous ?
Faut-il briser tous les tabous ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf. Cinquième question. C'est sur la responsabilité.
Sur le sport.
Faut-il en finir avec le sport ? Question un petit peu polémique, volontairement polémique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et dernière question sur la responsabilité. Qui était formulé, sommes-nous responsables
je ne me rappelle plus la fin. Sommes-nous pleinement responsables de chaque chose.
Sommes-nous pleinement responsables de chaque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois qu'on n'aura pas un deuxième vote.
Les tabous cavalent en tête.
Voilà, les tabous cavalent en tête. Faut-il briser tous les tabous ? Voilà. Eh bien, la tradition veut que la personne qui propose, mais vous avez un peu commencé d'ailleurs à le faire, la question, la thématique, finalement, voilà qu'est-ce qui vous anime dans cette question ? Pourquoi est-ce que vous la posez aujourd'hui ? Et pourquoi 29 d'entre vous ont-ils dit « Ah ben oui, on va débattre de ça ce soir. »
Merci beaucoup. Hein. ça fait vraiment des mois que je me pose cette question et que je n'arrive pas à trouver une réponse satisfaisante, en fait, parce que plus j'y réfléchis, plus ça devient complexe. Du coup, je voulais la soumettre, vous la soumettre. Et du coup, à la base, pour moi, le tabou avait quelque chose d'un petit peu négatif, comme une forme d'impensé, en fait. C'était ce qu'on ne dit pas, du coup, un trou noir de l'esprit, un trou noir de la pensée. Et du coup, pour moi, je m'étais dit, briser les tabous, c'est bien. Sauf qu'en essayant d'analyser un petit peu, je suis un peu revenue là-dessus. Quand on considère qu'il y a certains tabous qui sont considérés comme fondamentaux dans l'anthropologie, comme le tabou de l'inceste ou des choses comme ça, ça semble quelque chose d'assez fondamental chez l'être humain d'avoir des choses qui sont considérées comme tabous et sacrées en termes de corollaire. Et du coup, aujourd'hui, le fait qu'on soit un petit peu dans ce contexte de vouloir briser constamment ce qui semble être des socles, des piliers de la société, je me demande si c'est pas quelque chose de problématique. Qu'est-ce qu'on y perd là-dedans ? Est-ce qu'il y a des limites fondamentales qui sautent, peut-être par exemple les genres ou ce genre, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui ? Est-ce que la question des limites, la question du sacré, et en fait, je ne saurais pas comment répondre, parce que dans certains cas, il y a des tabous qui semblent, par exemple dans une entreprise où personne ne dit que, je sais pas moi, il y a une femme qui se fait harceler, et c'est considéré comme un tabou aujourd'hui, donc le fait de briser ce tabou-là, ça permet de donner une parole. Donc voilà, ce terme me perturbe beaucoup parce qu'il est pris dans beaucoup de sens différents et je ne sais pas comment l'appréhender. Voilà.
Très bien, merci. Alors juste un petit point, après je vous laisse tout de suite la parole, vraiment tout de suite. Un petit point de vocabulaire, il faudrait vérifier tout ça, mais il me semble de mémoire que tabou, c'est un terme qui était introduit dans la langue française par les premiers anthropologues à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
Oui, c'est un terme qui vient de l'Océanie, voilà, qui fait couple avec dans la langue océanienne avec le terme Noah. Noah, c'est ce qui est profane, et tabou, c'est ce qui est sacré. Avec le double sens du tabou, vous l'avez rappelé, c'est à la fois ce qui est sacré, et parce que c'est sacré, c'est ce qui est interdit. Parce que le sacré représente l'interdit. C'est parce que tu sais sacré, parce que c'est sacré, que tu ne peux pas y toucher comme cela. Et si tu y touches comme cela, précisément, tu es en train de profaner. Précisément, tu es en train de commettre un sacrilège. Et donc, des lieux sont tabous, des personnes sont tabous, des textes sont tabous, des paroles le sont, enfin bref. Et c'est donc le tabou, finalement, a une dimension qui renvoie à la transcendance, finalement, un au-delà du sacré, à partir duquel, finalement, le respect s'impose, et le respect, c'est précisément la marque de l'interdit.
Ça n'a pas forcément un sens religieux.
Non, pas forcément. Voilà. Pas forcément. Monsieur.
Alors, moi, je reviens sur l'être humain, le acquis conscient, cognitif. Si on enlève l'humain déjà de cette planète, on ne sait pas s'il y a des tabous au niveau animalier. Alors, c'est la première question. Donc l'humain, c'est provoquer ces tabous lui-même. J'entendais le divin par rapport au divin. Donc on avait déjà philosophé là-dessus, comme quoi l'humain a une façon intuitive un rapport au divin. Et la question, c'est est-ce que le divin, on pense pour lui, on pense pour le divin, on a établi une règle par rapport au divin. Alors, j'ai une question justement très tabou qui embête par exemple l'obédience chrétienne. Adam et Ève, pour faire une procréation, pour faire l'humain, ils ont des enfants. La question qui dérange est d'où viennent les petits-enfants ? C'est le premier tabou. On en fait quoi de ça ? Donc tout est une histoire d'éducation, de base. Suivant les civilisations, qu'on prend les civilisations grecques très libertaires, où c'est beau qu'on va visiter, et puis qu'on revient en France, on dit « Ah mais c'est beau, on va à l'église, ah là, c'est... » Donc l'humain, à la naissance, il est vierge de tout. Donc si on se rapporte au divin, qu'est-ce que le divin a voulu ? Est-ce que ce que l'humain veut dans le divin par rapport au tabou ? Voilà.
Entendu ? Madame ? Je ne pense pas qu'on puisse rabattre le tabou directement sur le divin.
Non, voilà. C'est ça. Justement, ça revient à la question que j'ai posée. Qu'est-ce que c'est que le divin ? Parce que je pense que sinon, ça devient hyper virtuel et on va nulle part, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le divin ?
Le tabou signifie, à l'origine, après, il y a un sens un peu plus large dans l'acception qu'on en fait, l'usage qu'on en fait, pardon, tous les jours. Le tabou, ça renvoie non pas forcément au divin, c'est l'une des figures d'eux, ça renvoie au sacré.
Oui, au sacré. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce
le sacré peut peut-être...
Qu'est-ce qu'on considère comme sacré ? Parce que ça, c'est une définition qui est donnée par les hommes et non pas le divin. Voilà. Donc, du coup, voilà.
Quoi. D'où la question, est-ce qu'on doit briser tous les tabous, c'est-à-dire, sous-entendu, ou si je me permets de la reformuler, y a-t-il encore du sacré, ou faut-il encore qu'il y ait du sacré ? Y a-t-il des lieux, des personnes, des textes, des comportements ? Vous parliez du tabou de l'inceste, sur lequel... Olivier Strauss a beaucoup travaillé. Y a-t-il, bref, des entités, des choses, pour dire de manière très large, que l'on considère comme sacrées et dont il faut faire un usage précautionneux, sauf à répondre d'un sacrilège, sauf à répondre d'une profanation ?
Mais est-ce que tout n'est pas sacré, du coup, cette vision-là ?
C'est briser les tabous, c'est considérer que... Pardon, briser tous les tabous, ce serait considéré, c'est l'objet de la discussion.
Mais tout est sacré.
Ça, briser tous les tabous, ça serait considéré au contraire. Que rien n'est en droit sacré, rien ne. Qu'on peut briser tous les tabous.
Non.
Politique, religieux, funéraire, sexuel, que sais-je encore. Oui, madame.
Oui. Est-ce qu'on n'appelle pas le tabou maintenant quelque chose qui est sacré, qui a été repris par les religions, les dogmes, etc. Est-ce qu'à l'origine. Le tabou, l'essence même du tabou, ça n'est pas juste des règles intuitives qui permettent à la société de se construire, et qui auraient été repris par les religions comme l'inceste, toutes sortes d'interdits qui sont vécus comme sacrés. Mais est-ce qu'à l'origine, ça ne serait pas inhérent à l'humain que d'avoir ce qu'on appelle tabou aujourd'hui, à travers les religions, ou les dogmes, ou les règles de vie ? Mais est-ce que ça ne serait pas fondamentalement dans l'humain d'avoir des interdits, on va dire ça comme ça, qui permettent de vivre ensemble.
De l'interdit et du non-dit. Le tabou, c'est aussi ce que l'on ne peut pas, ce que l'on ne doit pas dire.
Oui, mais parce que
briser les tabous, justement, vous l'avez...
C'est ce qui garantit la possibilité de du vivre ensemble.
Je vous laisse. Pas ça le juge, je vous laisse débattre.
Je converge aussi vers cette idée que, effectivement, si on part du principe que le tabou provient de la notion de religion, je me dis que ça converge vers l'espèce d'imaginaire, parce que Adam et Ève, ils n'ont pas existé. Non, je ne peux pas. En tout cas, pour ma part, c'est véridiquement pas envisageable. Mais la deuxième définition du tabou, c'est que c'est quelque chose qu'on a peur. Par peur de quoi ? Des représailles, probablement. Ça peut être par honte. Et même par pudeur.
Très bien.
Et donc je me dis que si on aborde le spectre de la peur de conséquences, comment on peut aborder ça? On peut y gagner sur le plan de la vérité, sur le plan de l'élévation de l'humain. Voilà. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Et c'est probablement pour ça qu'il y a encore des tabous, c'est qu'on a peur des conséquences qu'il pourrait y avoir. S'il y a eu de l'inceste dans une famille, ça pourrait déchirer une famille. Et je pense que des parents n'ont, enfin, la plupart du temps dans l'imaginaire collectif, la femme n'a surtout pas du tout envie d'avoir sa famille déchirée avec des pincettes. Mais...
Juste pour reprendre la parole, et vraiment je vous laisse ensuite débattre, sur la question de la prohibition de l'inceste, Claude Lévi-Strauss, donc le célèbre ethnologue et surtout anthropologue, en faisait, dans les structures élémentaires de la parenté, en faisait le à la fois, une règle, un interdit, une règle pas forcément légale, mais en tout cas une règle sociale universelle, c'est-à-dire que... d'après l'enquête qu'il mène, aucune société humaine ne s'organise sans la prohibition de l'inceste, ou pour le dire autrement, toute société humaine impose l'interdit de l'inceste, y compris dans des sociétés qui pourraient l'autoriser pour certains cas, par exemple l'Égypte antique, où l'inceste était non seulement autorisé, mais obligatoire entre les membres de la famille du pharaon. Il y a quelques exceptions comme ça, mais pour le dire très vite, finalement, donc, c'est une règle universelle, alors que Claude Lévi-Strauss, en tant qu'anthropologue, ne fait que constater la diversité des principes et des coutumes culturelles. Ça, c'est le premier point. Et il en fait surtout le passage pour l'espèce humaine, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, de la nature à la culture. C'est-à-dire que naturellement, la reproduction peut effectivement s'opérer entre un mâle et une femelle d'une même espèce, et les liens de parenté n'entrent pas forcément en ligne de compte, même s'il va y avoir des effets génétiques de consanguinité sur X générations. Et Lévi-Strauss, je ne sais pas s'il a raison ou tort, je donne simplement cette référence ce soir, en fait, donc, disais-je, le passage de la nature à la culture, c'est que l'inceste, l'interdit de l'inceste, c'est tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, et finalement, tu vas t'imposer, nous allons t'imposer une règle sociale, une règle de rapport d'individu à individu, indépendamment d'une nécessité naturelle. Et donc, finalement, c'est le point fondateur de toute société. Selon ce que dit Lévi-Strauss. J'arrête sur ma référence.
Moi, j'avais besoin qu'on éclaircisse, en tout cas, entre qu'est-ce que c'est briser un tabou. Il y a le dire des choses non dites, ou, et on va dire le passage à l'acte, qui est, d'après moi, il faut vraiment le distinguer, parce que, justement, ne pas comprendre, enfin, ne pas discuter d'un tabou, du pourquoi, du comment, et juste dire c'est comme ça, point barre, ça a une autre valeur que qui ne passera pas à l'acte, qui est là une autre étape. Je pense que voilà, les conséquences ne sont pas les mêmes, Voilà, ça pose pas la même chose en tout cas d'en briser un tabou, et je pense que ça c'est, enfin, moi j'ai besoin aussi que quand on en parle, savoir voilà, si on parle de effectivement il y a de l'inceste par exemple au sein d'une famille et on veut pas briser le tabou du coup, alors que le tabou a été on va dire justement brisé,
oui, ou bah, c'est ça.
A été passé à l'acte,
c'est ce que j'allais dire.
Voilà, c'est pour moi, c'est une grande différence aussi entre les deux, et où je me positionnerai certainement différemment.
Très bien. Madame.
En fait, s'agissant de cette question de l'inceste, hein, la question elle est très très simple, c'est qu'en fait, c'est de la consanguinité. Et là, je vais soulever un gros tabou, c'est qu'actuellement, il y a un problème absolument énorme sur certaines populations en France, où les consultations de médecine à Paris dans les grands services de génétique ne voient que des anormaux. Parce qu'il y a énormément encore de gens chez nous dont la tradition était d'épouser le frère, la sœur, le cousin, la cousine, et ils nous viennent directement, et c'est un gros problème. Parce que les consultations de médecine, il n'y a que de ça. C'est que des incestes, effectivement, et ben ça met en danger la race, tout simplement. Parce qu'on voit des degrés d'anormalité en très très grand nombre. Donc au-delà de la question morale, de savoir si... on a des relations avec quelqu'un d'un membre de la famille, c'est que les fruits de cette union-là ont des conséquences assez lourdes sur une société. Et chez nous, c'est un problème. Voilà. Donc ça, c'était un tabou.
Sur l'aspect génétique.
Il est, voilà. Ah oui, parce qu'actuellement, c'est un vrai problème en France. Parce qu'on n'interdit pas ça chez nous, alors que c'est interdit dans les pays d'accueil et les pays d'origine. Et voilà, ça pose un gros problème en médecine. Ça, c'est un tabou.
Oui, c'est là. En fait, je reviens encore, je vais revenir sur plusieurs choses. Le dernier point, c'est que, on parlait de la race, la nature s'en charge toute seule, hein, d'éliminer les gens qui font de la consanguinité. Là, il n'y a plus besoin de, effectivement, de divin n'importe quoi. C'est génétique, oui, qui fait tout seul. Les hybrides, ça existe. Par définition, c'est très rare, c'est arrivé qu'un hybride soit reproductible. Il n'y a pas. Je connais qu'un serpent aux os de la flèche, hein, et c'est un hybride entre un boa constructeur et un boa réticulé. Il eut des petits. Donc la génétique peut tout. Mais c'est ça, c'est tout seul. Chez les lions, c'est les plus forts. Chez l'humain, c'est les phéromones qui parlent. Voilà. Donc, moi, je reviens sur l'histoire d'éducation parce que qui, ici, par exemple, n'a jamais brisé un tabou? Je veux bien que quelqu'un lève la main en disant « Moi, j'ai jamais brisé de tabou. » Mais le sien, quel qu'il soit, parce que l'histoire d'éducation intrinsèque, par les parents, par la société, qui a fixé ses règles. Voilà. Alors, on peut dire par la loi du puissant, parce que pour régner, il faut donner des tabous. L'Église, on revient à la religion, a donné des tabous qui n'étaient pas existentiels avant. Pie XII a donné plein de tabous qui n'existaient pas forcément avant. Et là, si on fait mélange des genres de cultures, entre là, souvent on a un pote de chinoise ce soir, mais par exemple la Chine, machin, et on fait un truc cosmopolite sur une terre à Delhi, là, qu'est-ce qui va se passer? Chacun a son tabou, on fait plus rien. Et les animaux se franchissent des tabous, ça fait penser à la loi de Isaac Asimov, dans la loi des robots, ça fait penser à ça. On donnait un tabou aux robots, ne pas détruire l'humain. Voilà. Ça, c'est un tabou fixé par l'homme. Maintenant, chez les hommes, il y a la guerre, et il y en a pour qui tuer quelqu'un, c'est un tabou, puis d'autres, c'est des sacrifices dans le temps. Chez les Incas, on sacrifiait de l'humain. C'était pas tabou.
Je laisse réagir, j'allais reprendre la parole, mais...
Vas-y.
Du coup, moi, c'était une réaction par rapport au fait de briser l'acte de briser le tabou et le fait de le dire. Et pour revenir, l'exemple de l'inceste dans une famille, tant que si l'acte de l'inceste est effectif, mais qu'il n'est pas dit, la famille tient encore. Et le fait de révéler que ce tabou-là a été brisé, c'est là qui va faire effondrer la famille. Et j'ai l'impression que dans des structures, par exemple en entreprise, quelqu'un, un patron qui détourne de l'argent, tant que ce n'est pas dit de manière officielle et consciente, ça tient le truc, mais c'est le fait de parler, mais du coup qui révèle détourner de l'argent, l'inceste, ce sont quand même des choses fondamentales et morales. Donc c'est finalement la personne qui
va être porteuse du message que le tabou a été brisé, qui va être responsable de la destruction du système.
Le lanceur d'alerte, pour
c'est
dire...
Ça. C'est ça. Et du coup, c'est assez ambivalent, parce que la position morale, elle est très ambivalente, puisque le but, quand même, dans une société, un système, c'est qu'il y ait c'est de conserver... La structure et l'équilibre de la société.
Conserver la cohésion. Oui.
La cohésion. Mm. Du coup, de révéler les tabous, eh ben, c'est très problématique, mais ça permet à des gens qui sont un peu, peut-être, the worst man ever, comme disait Danny Robert Dufour, c'est ça, qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Mm. Et à partir du moment où on le dit, ben là, c'est un peu la merde. Du coup, faudrait permettre à ces gens de rester dans leur coin. Du coup, ouais, voilà. Moi, ça me semble bien dans ce cas-là de briser des tabous, mais en même temps, voilà, c'est problématique par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur...
Les conséquences sociales, ici.
Sociales, ouais.
Sociales. C'est-à-dire que si je traduis votre réflexion, briser le tabou au sens de révéler, cette fois-ci, pas d'agir, mais de révéler des comportements soit illicites, pour prendre le tournement d'argent, soit immoraux ou irrespectueux envers la personne humaine, c'est prendre le risque de la désunion sociale, de la discorde.
Ça veut dire quoi ce que vous avez dit en anglais?
Le pire homme du monde. C'est par rapport à la conférence la dernière fois.
Je crois que c'est monsieur, madame.
Oui, du coup, je me pose la question sur le devenir du tabou dans le temps. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être tabous à un moment donné de l'histoire, on va dire dans la civilisation, choses qui pouvaient être tabous au Moyen-Âge qui ne sont plus maintenant, et j'ai envie de dire inversement. En mettant en parallèle, on va dire, des règles qui ont été, on va dire, au départ beaucoup portées par l'Église, par le religieux, puis, pour parler des philosophes avec la morale, je pense qu'il y a quand même eu des évolutions importantes, avec des gens comme Kant, etc. Et puis par les politiques, parce que finalement, les politiques ont fait du droit. Donc le droit, c'est des règles. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on a quand même un certain nombre de tabous, qui sont des tabous parce que quand on les dénonce, finalement, on dénonce quelqu'un vis-à-vis de la justice, vis-à-vis du droit. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis des barrières au fil du temps, au fil de l'évolution, au fil de la prise de conscience de la société. Eh bien, on a essayé de mettre des règles qui font que finalement, on peut, il me semble, attacher assez facilement un tabou avec une règle, donc la justice, donc le hors-la-loi. Et je pense qu'on... D'une part, il y a cette évolution dans le temps et il y a aussi des distorsions, évidemment, dans les régions, dans les pays différents, où il peut y avoir quelque part une notion qui est taboue dans un pays qui ne l'est pas du tout dans un autre ou dans un continent. Voilà. Donc, c'est cette dimension à la fois presque spatiale et temporelle qui me semble importante dans la notion même du tabou et dans la transformation, finalement, dans l'évolution de la notion du tabou.
Oui, juste un exemple pour illustrer la question du relativisme culturel finalement auquel vous faites référence, à la fois dans le temps et selon les différentes communautés considérées. Sur la question du cannibalisme, par exemple, c'est aussi vieux que la découverte du Nouveau Monde par les Occidentaux, les Européens, au XVe siècle, et c'est aussi vieux que les essais de Montaigne hein, sur les cannibales. Sur la question du cannibalisme, on a vraiment cette relativité du tabou, c'est-à-dire que pour nous, qui est le nous pour les sociétés occidentales, non seulement il y a un interdit légal, c'est illégal de consommer de la chair humaine, et il y a pour ça je distinguerai l'interdit légal et le tabou. Et il y a un tabou social et un tabou moral. C'est je ne consomme pas de la chair humaine. Je ne mange pas mon père. Je ne consomme pas le cadavre de mon père. Si vous allez pour prendre une référence peut-être plus récente que celle de Montaigne, dans certaines communautés d'Amazonie, notamment chez les Guayaquil, qui existaient encore au XXe siècle, les derniers Guayaquil ont
ont disparu à la fin du XXe siècle. Il y a un anthropologue, Pierre Clastre, qui a travaillé, enfin qui a vécu auprès des Goyaki et qui en a rendu un ouvrage absolument, une enquête absolument extraordinaire, qui s'intitule Chronique des Indiens Goyaki, exactement pour la référence. Et il y a ce chapitre-là qui consacre au cannibalisme. Il vit pendant des années et des années auprès des Goyaki. Je crois qu'il a vécu 12 ans chez les Goyaki. Et au départ, les Goyaki sont cannibales. Ils sont cannibales, ils ne mangent pas leurs ennemis, ils ont peu d'ennemis. Par contre, il y a une obligation de consommer la totalité du cadavre des membres de la tribu. Quel que soit l'âge, du bébé jusqu'à la personne la plus âgée. On doit tout manger, à la fois, excusez-moi, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais à la fois donc la chair, à la fois les viscères, la chair qu'on va faire griller, les viscères qu'on va faire bouillir, et les os qu'on va broyer sous forme de poudre, qu'on va mélanger avec tel ou tel légume. Et il y a une obligation non seulement de consommer la totalité du cadavre, et de consommer donc tout le cadavre et toute personne. Et toute la tribu, ou toutes les tribus, parce que les Goyaki, c'est une série de tribus qui vivent par un groupe de 200 à peu près, doit prendre sa part. C'est-à-dire que vous devez consommer un morceau de votre je ne sais quoi. Alors, il y a quelques exceptions, enfin, là, je ne rentre pas dans les détails voilà. Pour terminer sur mon exemple, pendant les premières années et pas les premiers mois, Clastre ne voit pas le cannibalisme des Goyaki. Ils ne le voient pas, ils le font lorsqu'il n'est pas là, ils l'envoient chasser là-bas pendant 2-3 jours, etc. Enfin bref, et ils voilà. Et puis à un moment donné, ils se posent quand même des questions. Voilà. Et il est considéré comme un Indien Goyaki, si vous voulez rentrer un petit peu de. Voilà. Et il va participer à lui-même, en tant que Goyaki, à des scènes de cannibalisme endémique, comme on dit. Où on est anthropophage de sa propre tribu, et avec toute l'expérience de l'anthropologue qui est la sienne, avec les mois et les années qu'il a partagé auprès de ces Indiens-là, il décrit de la manière la plus précise la scène de cannibalisme, le rite funéraire en fait auquel il assiste, et il l'éprouve, il décrit la façon dont lui-même éprouve une sorte de dégoût à l'idée de devoir manger la chair du type qu'il avait croisé 5 jours avant, etc. C'est-à-dire qu'il va le faire, mais, pour revenir à la question d'éducation, il conserve en lui ce tabou, finalement, qui est celui de son processus, de sa socialisation de français, en disant « je ne peux pas consommer le cadavre de l'un des miens ». Il le fait, mais il explique que finalement il y a une sorte de contradiction entre ces deux injonctions sacrées, tu ne mangeras pas la chair humaine, et la deuxième injonction sacrée, qui est celle pour illustrer le relativisme, qui est celle de cette société Goyaki, c'est tu mangeras nécessairement le cadavre de ton voisin. Pour le dire très vite, c'est un peuple nomade, et donc c'est une façon, je vous l'ai fait hyper vite, parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a des raisons économiques, des raisons gastronomiques, il y a des raisons diététiques, il y a des raisons symboliques. La raison symbolique, c'est, comme c'est un peuple nomade qui revient rarement sur le lieu où il a vécu, c'est une façon donc, de conserver l'âme du défunt auprès des tribus. Et puis ensuite, il y a des raisons diététiques, etc. Enfin, c'est une façon d'avoir des protéines. Et apparemment, disent les Goyaki, tu verras, goûte, c'est délicieux. Ça, je m'en sers. Ouais, c'était un exemple pour illustrer cette question du relativisme, finalement, des règles, qui, à mon avis, ne se résument pas forcément des règles de droit. C'est-à-dire qu'à mon avis, la différence entre le droit et le tabou, c'est que le tabou relève du sacré. Le droit...
Et le moral aussi.
Voilà.
Le droit et le moral.
Oui.
La question, c'est est-ce que tu es d'abord ou...
Non, ne tuez pas, quelques exceptions, je ne vais pas rentrer trop en détail parce que c'était juste un exemple. La personne décède, accident, vieillesse, maladie, et il y a un rite funéraire qui, autour duquel, finalement, auquel toute la tribu participe, c'est une façon aussi de renforcer le lien social, Et donc, il y a une sorte de barbecue. Enfin, voilà. Non, mais ben, ben, je pourrais vous. Enfin, ben, lisez, c'est le chapitre 8 de Chroniques des Indiens Boyakis. C'est assez extraordinaire.
Oui, je voulais revenir à ce qui avait été dit tout à l'heure de dénoncer le tabou. Et comme quoi, tant qu'il n'est pas dénoncé, la famille ou l'entreprise tient. Je me demandais ce qui tient, en fait, derrière ça. Parce que là, on ne dénonce pas le tabou, à mon avis, on dénonce le fait qu'on a enfreint le tabou. Et donc, ça permet, justement, de restaurer le tabou, pour moi. On ne dénonce pas, on dit qu'il a été enfreint, qu'on a transgressé. Et c'est ça qui fait que la société tient, justement. Le mensonge ou le secret ne fait pas tenir la société.
Je ne réagis pas, je vous laisse réagir. Vous avez vu le film Festen?
Oui.
Voilà. Bien sûr. Alors, dans l'ordre, madame.
Je crois que c'est la première personne ici.
D'accord.
Non, moi, je vais juste dire deux choses. C'est que le sacré, la définition du sacré, elle a été définie par des êtres humains. Donc, c'est parfaitement subjectif, en fait. C'est toujours un être humain qui a défini ce qui était sacré, puisque par définition, on ne peut pas le savoir, puisque c'est censé venir de ce qui n'est pas humain. C'est-à-dire qu'on fixe arbitrairement que lui, il va avoir autorité pour définir ce qui va être sacré ou pas. Voilà. Moi, je pense qu'il faut juste considérer les faits. Et que c'est vrai que orchestrer, appeler sacré des choses au nom de quoi? En quoi ça fait grandir de manger son prochain, quoi? Je veux dire, est-ce que ça fait grandir? On peut se poser la question du sacré dans ce sens-là, quoi. Si ça n'a ni queue ni tête et que c'est simplement pour manger de la viande ou des protéines ou pour conserver l'âme.
Non, il y a une dimension symbolique.
Oui, mais la dimension symbolique, elle est.
C'est un hommage rendu au mort.
On n'en sait rien quelque part. Est-ce qu'on récupère l'âme de la personne à travers son corps?
En tout cas, pour les Boyakis, c'est vécu comme tel.
Oui, mais ça a été fixé du coup par. Et au nom de quoi? Parce que personne n'a été adombré spécialement. Voilà, c'est un choix qui est fait, quoi. D'abord, c'est ça, puis ensuite de ça, pour la deuxième question par rapport au tabou dans une société. C'est la fameuse politique du mensonge qui existe partout, parce que c'est dans le cœur humain, quoi. On cache les petites choses qui ne sont pas très, très jolies à montrer, et puis on vous fait très vite comprendre qu'il ne faut pas que ça transpire, parce que sinon il y aura des petits problèmes. Bon, voilà, ça n'a même rien à voir avec des questions de tabou, c'est ce qui se passe dans l'humain, dans l'ego humain un peu déviant, où effectivement on se repasse des mensonges indéfiniment pour éviter que ça saute. Mais le problème, c'est que ça sautera de toute façon. C'est une question de temps. Voilà.
Madame non, mais c'est monsieur et madame. Ah, d'accord, je laisse gérer. Vas-y. Alors,
je voulais juste dire.
Donc, je pense que il faut aborder la question de l'éthique. Parce que le tabou, si on veut le lever, et même tous les tabous, le but, c'est savoir quel est le but, dans le sens où est-ce qu'on veut lever un tabou, enfin même briser un tabou, dans le but d'éclairer la société ou de dénoncer et de montrer du doigt le responsable. C'est deux choses qui sont vraiment distinctes. Qui relève du droit, du coup, et de la morale, l'éthique, et alors après, ça me dépasse, mais on peut briser les tabous, mais à quel prix et dans quel but?
Très bien, je vous laisse la parole.
Ah ben, ça revient un peu à la même réflexion, j'ai envie de dire, à qui profite le tabou? Entre guillemets, à la victime, l'oppresseur, on va dire.
Le tabou au sens du secret, c'est-à-dire, c'est ça alors. À qui profite le tabou au sens de maintenir
oui,
le secret?
Oui, exactement, ouais.
Voilà. Et organiser le secret même.
Et en quoi, effectivement, briser le tabou ne profite pas justement à ceux qui l'enfreignent, si justement on tait la chose. Et du coup, c'est là où on peut s'interroger de qui a rendu ça sacré pour effectivement passer ça entre guillemets sous silence, à la fois l'interdire, mais peut-être aussi le rendre le plus secret possible. Et donc, c'est vrai que dans chaque société, finalement, j'ai envie de dire, excusez-moi des termes un peu forts, des dominants et des dominés qui fixent les règles, et du coup, ça arrange qui, en fait, et pourquoi, et venir questionner en dénonçant ou en brisant le tabou, c'est effectivement poser collectivement la réflexion de cette règle, est-ce que, pourquoi elle est là, et est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'elle est utile à la société réellement, ou elle est utile à un groupe pour la société, ou quoi que ce soit. Voilà.
Je laisse la parole circuler. Hein.
Je voulais rebondir sur le cannibalisme. Il me semble que aussi c'est briser les tabous, ça peut être aussi en cas d'urgence, voire par exemple, je pense qu'il y avait un avion qui s'était écrasé dans les années 70, je pense, dans des montagnes. Voilà. Et en fait, ils avaient été obligés de manger les cadavres au bout d'un moment. Donc je pense aussi qu'on pourrait relier le tabou avec la notion d'urgence et de privation. Et puis, je voulais aussi ajouter une chose, c'est que quand on parle de relation de dominant à dominé, parce que là, nous aussi, j'ai l'impression qu'on ne brise pas les tabous parce qu'on parle de tabou, quoi. Mais jamais, à part l'inceste, c'est venu plusieurs fois, mais au fond, c'est quoi les tabous actuellement ? Ben, j'ai l'impression que la sexualité, par exemple, c'est encore très tabou, notamment la sexualité féminine. Alors si on va plus loin, mais pourquoi dans les familles, moi, quand j'étais... Enfin, je ne sais pas, peut-être que ça a évolué, mais je n'ai pas l'impression que ça évolue beaucoup, voire même que ça revienne peut-être un peu en arrière. Mais la sexualité féminine, c'était tabou. Il ne fallait pas en parler dans les familles, même en dehors. Voilà. Ça, est-ce qu'il faut le briser, ce tabou ?
Madame ?
C'était aussi pour revenir sur le cannibalisme. Vous parlez de symbolique dans ces Indiens qui sont de fin fond du Nil, je ne sais où, mais on a la même symbolique dans la religion catholique. C'est-à-dire que le texte de départ, c'est « Ceci est mon corps, mangez-en tous, ceci est mon corps, versé pour vous, buvez-en tous ». Et c'est une communion, et c'est absolument la même chose.
Parenthèse, vous rejoignez Claude Lévi-Strauss, il y a un article de Claude Lévi-Strauss, je crois que c'est l'un des derniers articles qu'il a rédigé, c'était le vieux Claude Lévi-Strauss, qui présente la religion chrétienne comme une religion cannibale. Effectivement, l'Eucharistie, c'est le partage de la chair et du sang du Christ. Ah non, parenthèse, sur la doctrine dite de la transsubstantiation, lorsque vous communiez, ça n'est pas symbolique, c'est réellement le corps que le sang du Christ.
C'est manger tous ensemble, c'est la même chose que les
amis. Oui, non, mais c'est.
Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de tabous ?
Alors, on l'a maintenant. Et on prend le micro. Et après, on reviendra peut-être sur deux, trois propositions.
En écoutant tout le monde, moi, je me demandais s'il n'y avait pas aussi l'idée d'accepter le fait que l'humain est faillible, dans le sens où je pensais au tabou, par exemple, de la vieillesse, au tabou qui avait été brisé par Orpea sur le scandale, qui était un secret de polichinelle de beaucoup de soignants, et qui était très difficile à dire au grand jour, et ce journaliste l'a fait, peut-être parce que, en fait, on a très peu de réponses et de compréhension de comment on peut intellectualiser le fait qu'on vieillit, comment faire pour vieillir et comment la société veut bien accueillir les personnes qui ont le plus grand âge. Et ce tabou, il a été brisé, mais au final, il a réécrit un livre cette année où il explique que pas grand-chose a changé. Et je me demande si c'est pas aussi difficile pour l'être humain d'accepter le fait que sur différents sujets, on ne sait pas et on a du mal à comprendre ce qu'on vit.
Moi, je me permets juste une remarque par rapport aux différentes interventions, enfin, dernières interventions, notamment la vôtre, quoi, par rapport à la sexualité que vous avez évoquée, madame. Moi, la question que je me posais, c'était au-delà du relativisme culturel et historique. J'entends que le tabou c'est une affaire d'éducation, qui décide du sacré,
effectivement. Mais la question que je me posais, je me pose des questions, je n'ai pas de réponse, hein, c'est de savoir si finalement il n'y a pas, au regard de notre condition humaine, nous sommes des êtres faillibles, ce qu'on appelle la finitude en philosophie, nous sommes mortels, nous savons que nous sommes mortels, nous sommes appelés à vieillir, nous avons un corps, une sexualité, etc. Finalement, savoir s'il n'y a pas des règles ou des principes, je ne sais pas comment le formuler, qui seraient universellement considérés comme sacrés et qui détermineraient des formes de tabou. J'entends par là, sur la question de la mort, par exemple, il y a certes, vous voyez bien, une relativité extrême des modes d'accompagnement des défunts. On les mange, on les enterre, on les incinère, on les met dans les eaux du Gange, etc. Ça, bien sûr, mais il y a au moins un élément universel, me semble-t-il, c'est que toute société humaine rend hommage à ses défunts. Et que celui qui ne le fait pas, qui laisserait crever son ennemi sur le bord de la route, précisément, il brise un tabou, le tabou qui consiste à honorer le corps du défunt. C'est aussi vieux que la pièce de Sophocle, qu'Antigone, la tragédie. Antigone, je vous rappelle la petite histoire, elle va protester contre Créon, le roi de Thèbes, parce qu'il refuse de donner à Polynice, c'est ça je crois le nom, il refuse de donner à Polynice, qui est un Thébain qui a pris les armes contre Thèbes, c'est un traître, c'est un fort, qui est mort au combat, il refuse de lui donner une sépulture. Et Antigone entre en résistance contre Créon en appelant, au-delà des lois écrites, il y a la loi écrite de Thèbes, le droit, si vous voulez, la loi dite, le droit dit positif, en appelant aux lois non écrites. Ces lois non écrites, ce sont les lois, alors, pas forcément divines, c'est pas forcément la religion ici, c'est tout homme, parce que c'est un homme, toute femme, parce que c'est une femme, bref, tout membre de l'espèce humaine, parce que c'est pas n'importe qui, n'importe quoi, tout homme et toute femme doit pouvoir être honoré dans son dernier voyage au moment de son décès. Et finalement, celui qui ne le fait pas, non seulement il brise un tabou au sens où voilà, c'est sacrilège, il profane, et peut-être pour rebondir à partir de ce que vous avez dit, madame, il remet en cause le sens même d'une société, de société humaine. Qu'est-ce que ça serait qu'une société humaine qui n'honorerait pas ses anciens, qui n'honorerait pas ses défunts, qui n'honorerait pas le corps de l'autre, la sexualité, ou le respect du corps de l'autre. Et finalement, briser le tabou, ça, on a l'impression que, effectivement, les tabous varient dans leurs expressions, selon le temps et selon les cultures considérées, mais qu'ils restent finalement structurellement à peu près les mêmes d'une société à l'autre, parce qu'ils seraient c'est en tout cas l'idée que je vous propose au débat, parce qu'ils seraient consubstantiels, ils seraient constitutifs de notre humanité. Le langage, la sexualité, le travail, le corps.
Donc,
j'en sais rien.
Je pense que le côté cognitif de l'humain, qui sait qu'il va mourir, avec le côté instinctif, comme à chaque fois je le dis, il y a quelque chose chez l'humain qui porte à pousser au divin, même toute société, si on ne sait pas. Donc les tabous intrinsèques qui seraient dans l'ADN de l'humain, cognitif humain, mais d'autres animaux le sont aussi, l'éléphant va mourir. Personne ne s'y gère dans la population des éléphants, il va mourir tout seul. Maintenant, transgresser les tabous, quand même, on voit vachement en actualité des gens qui ont des accidents vasculaires ou n'importe sur le trottoir, et les gens passent autour. Donc là, je ne sais pas, effectivement, l'accompagnement de l'humain qui a un tabou, laisser mourir quelqu'un sur le bord du trottoir, on le voit. Dans les guerres, le mec il s'est écrasé la tête à tout de marteau, là. L'autre, il n'a pas, hein, voilà. Donc, alors, peut-être que derrière, il faut un morceau d'amour en fonction de celui qui est décédé.
Parce que précisément, dans les exactions auxquelles vous faites référence, dans n'importe quel conflit, il y a des moments d'exaction, que ce soit le 101e bataillon pendant la Seconde Guerre mondiale, la prison d'Abu Ghraib, enfin, on peut prendre le massacre de My Lai, on peut en prendre 36, des exemples les plus macabres les uns des autres, ce sont des moments où la société faillit, c'est le moment finalement où le tabou n'est plus.
Pourquoi est-ce que je peux massacrer tout un village en entier, 330 personnes, au massacre de My Lai par une troupe soldats américains pendant la guerre du Vietnam? Des innocents, on brûle tout le monde, de n'importe quoi, on brûle tout vivant. D'accord, tout vivant, animal, humain, etc. Parce que précisément, il n'y a plus de tabou. Qui, à partir du moment où le tabou saute, ben, en fait, on sombre dans ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme, on sombre dans ce qu'on pourrait appeler la barbarie. J'aime pas ce terme. Parce que je pense qu'il n'y a pas de barbare.
Non, je voulais dire oui, on tombe sur.
Oui, voilà. Enfin, je...
Il n'y a plus d'humanité. S'il n'y a plus de tabou, il n'y a plus d'humanité.
D'où après la question de madame à propos de la sexualité féminine, on peut prendre d'autres exemples.
Est-ce que c'est vraiment un tabou? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est dans une société à un moment donné? Est-ce que le tabou, c'est pas plus fondateur que juste des choses culturelles à un moment donné dans une société donnée? Est-ce que le tabou, c'est pas plus quelque chose d'universel qui nous est qu'on a intériorisé dans notre humanité? Et pas juste des manifestations culturelles à un moment donné, dans une société, dans une technologie, dans une religion. Est-ce que c'est pas beaucoup plus fondateur que ça?
Je vous laisse la parole.
Non, je parle trop.
Mais donc, du coup, ça pose la question du sacré. Et si quelqu'un a des tabous, si dans une société il y a des tabous, et qui se disputent avec la tribu d'à côté, qui a d'autres tabous, par exemple, on incinère les morts aux Indes, et puis à côté, c'est complètement différent, à ce moment-là, ils disputent. Donc, il n'y a plus rien ni de tabou, ni de sacré là-dedans. Donc, moi, ma question, c'est de me dire, est-ce que quelque part, ce n'est pas tout le processus de la vie elle-même qui est sacré, et nous, on n'arrête pas de profaner tout ça, avec des tabous, des pas tabous, etc. En fait, c'est la prise de conscience qu'il faut faire. En fait, le processus de la vie elle-même est sacré, est profondément sacré, et on n'arrête pas de le transgresser tous les jours. Chacun dans nos trucs et tout ça, c'est énorme. Et les gens qui ont des tabous, bah, ils disputent avec les autres qui ont d'autres tabous qui les mettent en opposition. Donc voilà, c'est presque un faux problème, ça, en fait. Le truc, c'est que c'est le processus de la vie entière qui est sacré.
Oui.
Ah, oui. Oui, je voulais revenir sur l'intervention de monsieur à propos du scandale Orpea et de ce qui se passe dans les maisons de retraite. Je me demandais si c'était vraiment une question de tabou ou si c'était pas plutôt notre peur de la vieillesse. Ça nous renvoie une image de ce qui risque de nous arriver et c'est effectivement terrifiant. Et de ce fait, nous n'osons pas regarder en face et nous abandonnons les personnes qui souffrent dans ces résidences sans rien faire. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un phénomène de tabou. Je pense que c'est plutôt une peur collective de ce qui pourrait bien être notre futur qui nous empêche de regarder les choses en face.
Très bien.
Alors, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire.
J'ai cru comprendre
qu'on disait qu'en fait, qu'il fallait conserver les tabous parce que ça organisait la société. Est-ce que ça a été dit
Je pense que c'était la position de madame, sans vous trahir.
Alors là, moi, je suis complètement contre.
Oui.
D'accord, mais heureusement que certains tabous ont été levés, qu'il y a eu des secrets qui ont été levés, parce que ça a permis quand même à des gens, je pense notamment aux homosexuels, de pouvoir vivre entre eux. Ça, aux droits des femmes, ça a permis quand même toute une liberté.
Moi, je trouve que les exemples que vous prenez sont particulièrement... Enfin, je sais pas comment vous allez réagir, sont particulièrement pertinents et enfin, en tout cas intéressants... à proposer dans le débat sur l'homosexualité, effectivement, indépendamment même d'un discours religieux, nos sociétés ont longtemps et considèrent encore pour quelques franges de la population, ont longtemps considéré que c'était un rapport contre nature. Et donc, qui dit contre nature dit immoral, dit donc forcément barbare, avilissant, dégénérescent, décadent, enfin bref, on peut en prendre tous les adjectifs les pires les uns des autres. De sorte que, effectivement, à partir du moment, on revient toujours à la nature humaine, me semble-t-il, c'est si on considère, alors qui le décide, Mais je pense qu'il n'y a personne, il n'y a pas un monsieur X ou madame Y qui va décider un jour d'écrire ça au tableau. Mais si on considère que le rapport homosexuel est un rapport contre nature, alors il est absolument interdit d'y céder. Donc soit on sanctionne, soit thérapie de conversion qu'on voit ici et là se développer aux États-Unis d'Amérique, même en Europe, même en France. Ah, les pauvres, vous êtes malades, on va vous soigner. On est toujours dans un rapport au tabou. Effectivement, est-ce qu'il n'est pas bon de briser certains tabous, c'est-à-dire le tabou qui consiste à faire de ce que l'on considère comme étant naturel le socle de ce qui est permis et le socle de ce qui est interdit. Est-ce qu'on, finalement, c'est ça, finalement, derrière. C'est faire de la nature humaine le socle de la morale. Du tu dois et du tu ne dois pas. Et on a eu les mêmes débats, on a les mêmes débats sur la PMA ouverte à toutes, sur la gestation pour autrui, c'est encore différent, sur le débat actuel de la commission citoyenne sur la fin de vie. Madame.
Du coup, pour revenir à l'impact au niveau sociétal, ce qui me vient, c'est que finalement, le tabou, il est brisé quand la société, elle est prête à supporter, moi je sens ça, elle est prête à supporter, je dirais, la charge émotionnelle que ça suscite. Donc voilà, parce que effectivement, pour moi, le tabou, ça revient à de la peur qui est associée aussi à de la vulnérabilité, à accepter ses parts sombres. Et je pense que ça peut être brisé, ça intervient quand voilà, c'est difficile matériellement de le nommer, mais quand dans l'énergie, la société, elle est prête à accepter ça sans mettre en péril sa vie parce qu'il y aurait une trop forte charge émotionnelle qui serait libérée en le brisant.
Oui, je pense que c'est très juste.
Et ben, moi aussi, hein. Moi j'ai oublié mon truc. Et du coup, comme on s'est parti un peu, je pense que ça serait peut-être bien de revenir à l'essentiel. Et le courage, en fait. Parce que ça revient à ce qu'on vient de dire. Hein. Qu'à partir du moment où on est prêt, on peut se dire, bah, en fait, il n'y a aucun tabou. Moi, si j'apprenais demain qu'il y a eu un inceste dans ma famille, mais je hurlerais, quoi. Vraiment, et j'aurais aucun scrupule. Enfin, non, c'est pas possible, c'est inadmissible. Et ça serait partout pour. Enfin, je pense que tout citoyen, avec un minimum de recul, est en mesure de se dire bon bah, il faut pas quoi. Et c'est contre. Là, littéralement, c'est vraiment contre nature dans le sens où l'humain n'est pas fait pour. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'à partir du moment où il y a eu cet acte, bah, la nature reprend ses droits et dit bah, non, toi, c'est pas possible, t'es pas légitime, tu peux pas continuer. J'exagère.
C'est comme
la pédophilie. Oui, mais à travers ces différents exemples, finalement, ce qui se joue, et c'était un peu l'objet de votre question initiale, me semble-t-il, c'est faut-il briser tous les tabous derrière une question subsidiaire, enfin, qui est centrale, c'est est-ce que l'on doit faire le tri, pour le dire de manière un petit peu prosaïque, entre des tabous qu'il faudrait tenir, comme étant absolument infranchissables, merci, et d'autres dont il faudrait vite, aussi vite que possible, selon l'évolution des mentalités, se débarrasser.
Bah, au risque voilà,
c'est ça. Est-ce qu'on doit faire le départ entre le bon et le mauvais, entre ok ça non ça oui, ou est-ce que au contraire on doit considérer que il y a du tabou qu'il faut le respecter ou que il faut briser tous les tabous.
Et à l'origine la définition du tabou c'est que c'est la peur et la honte. Donc à partir de ce moment-là c'est juste une croyance qu'on a et
c'est la peur et la honte. C'est pour reprendre la question des funérailles, c'est plus que ça, c'est plus que la peur et la honte. Je me sens obligé, j'ai une sorte d'obligation morale, même humaine, plus que morale, de rendre hommage aux défunts. C'est pas forcément la peur ou la honte, la peur de ce qui va devenir de ma propre dépouille lorsque ce sera mon tour, ou la honte de ne pas être à la hauteur d'eux. Je pense qu'il y a quand même l'idée que non, en fait, tu ne laisses pas crever ton prochain sur le bord de la route.
Mais est-ce qu'on n'appelle pas tabou n'importe quoi?
Ah, ben voilà.
C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas très très peu de tabous, de vrais tabous en fait, et ce seraient les choses qui mettraient vraiment en péril l'humain, l'humanité et la possibilité de vivre en société, à savoir effectivement l'inceste, parce qu'au départ, l'interdit, je pense qu'on confond tabou et interdit. Et je pense qu'il y a des choses qui sont interdites par des lois, par des sociétés, par des pratiques, dans certaines tribus on fait comme ci, dans certaines sociétés on fait comme ça. Il y a des interdits qui sont... On se met d'accord sur un certain nombre d'interdits, c'est le droit, enfin les droits, ce qu'on veut, selon les sociétés. Et je pense que le tabou, c'est au-delà de ça, c'est avant ça. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de tabous. Le tabou de l'inceste, par exemple, c'est quelque chose qui, fondamentalement, au démarrage, j'y étais pas, mais pas tout à fait. Je veux dire, je pense que ça met en question la survie de l'espèce, parce qu'il y a la dégénérescence dans la reproduction entre personnes, dans les fratries, dans les familles, etc. Et que je pense que l'interdit de l'inceste, à l'origine, il a été posé pour ça, dans l'humanité. Pour préserver la possibilité que l'humain continue d'exister. Sinon, ce serait dégénéré. Donc ça, c'est un vrai tabou. Et il est inscrit en nous, je pense. Et la transgression de ce tabou a été repris par les lois, punie. Donc ça est devenu un interdit dans nos sociétés. Mais parce qu'à l'origine, il est dans notre humanité. Et je pense que quand on dit l'homosexualité, la sexualité féminine, ça, je suis complètement d'accord qu'il y a des choses qu'il faut qui évoluent énormément, et qu'il faut libérer la parole par rapport à ça, et ne plus être ni honteux, ni avoir peur, ni tout un tas de choses, mais que ce sont des pratiques culturelles, ça. Ce ne sont pas des tabous, ce sont des choses qui se sont construites au fil des sociétés, avec des interdits, avec, pour, grâce ou à cause des religions, à cause de toutes sortes de choses, d'intérêts, de toutes sortes de choses qu'on peut explorer, mais ce n'est pas pour moi fondamentalement des tabous. C'est des questions de société qui sont des questions culturelles.
Vous êtes comme Sodome et Gomorre, enfin.
C'est quand même dans la religion.
En fait, le tabou, c'est quoi? C'est quelque chose qui va faire dégénérer le corps physique. Hein. C'est des questions de santé uniquement. Dans tous les cas de figure, on voit qu'il y a un impact soit psychologique, soit physique à terme de la pratique de ce tabou-là. C'est-à-dire qu'il y a un questionnement qui intervient à un moment donné, parce que quelque part, très profondément en soi, on sent très très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens de notre épanouissement total. Hein. Voilà. Il y a des conséquences. Ben, l'inceste, madame le dit très bien, c'est mauvais pour la race à terme parce que ça la dégénère. Et même Louis XV à l'époque avait interdit, avait instauré un cordon sanitaire pour ne pas que les peuplades dont c'était des pratiques puissent rentrer en Europe et puis donc du coup avoir ces conséquences-là. Et puis l'homosexualité, c'est pareil, hein, surtout masculine, elle n'a pas que des conséquences sympas sur la nature physique, hein, sur le corps, je suis désolée. Donc je pense que le tabou, c'est transgresser quelque chose qui va avoir des conséquences psychologiques et physiques à terme. Obligatoirement, on se pose une question à un moment donné, parce que ça épanouit pas, c'est pas l'extase, quoi. Enfin, je veux dire. Donc du coup, le tabou, ça n'est pas... C'est lever tous les tabous. Enfin, je veux dire, on touche des domaines où le sens du bonheur, il devient très suspect, en fait. Alors qu'au départ, c'est censé avoir quelque chose de sacré, puisqu'on évoquait... voilà. Tandis que là, franchement, dans ce qui est nommé tabou aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous apporte un bonheur, voilà, un plaisir, oui, mais pas un espèce de bonheur pérenne. Voilà. Enfin.
Je suis pas absolument d'accord avec vous, moi, je tiens à le dire, sur la question notamment de l'homosexualité.
Voilà. C'est moi qui ai la voix, oui. Au fond, peut-être qu'il faut briser les tabous quand ça libère, et il faut les conserver quand ça protège.
Ben voilà, conclusion, hein, enfin.
Alors, je me demandais où il fallait mettre la pédophilie, si c'était un interdit ou un tabou, parce que dans un passé pas si lointain, c'était relativement... toléré, je dirais pas admis, mais toléré. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de vraiment parfaitement répréhensible. Alors, est-ce que c'est un tabou ou un interdit? J'avoue que là, j'ai une hésitation.
l'intervention.
Oui, c'est... Bah, tu voulais prendre la parole, non? Non, sinon je veux bien réagir, mais allez-y, monsieur, oui, je veux réagir après.
Mais je pensais à une difficulté sur la capacité à démontrer quelque chose. Il y a des tabous. Alors, on va prendre deux exemples, de l'inceste et de l'homosexualité, où on sent d'un côté, si on prend l'inceste, que ça va contre la morale, ça va contre le droit, ça... Et on en entend des histoires, ça détruit la famille, etc. Mais il y a une grande difficulté à démontrer l'inverse. Contrairement à l'homosexualité, qui a été un tabou, qui l'est certainement encore, hein, évidemment, dans des familles, mais on arrive, parce qu'il y a des lois dans même différents pays évoluent, hein, on n'est plus condamné quand on est homosexuel. Maintenant, on peut se marier. C'est-à-dire qu'on peut démontrer devant la société l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pour l'inceste, on ne peut pas faire de démonstration qu'il ne faut pas faire ça, puisqu'il y a déjà la morale, il y a déjà le droit. Et je pense qu'il y a une certaine difficulté par rapport à cela. Et le tabou de l'homosexualité, par exemple, dans une famille, qu'on peut comprendre il y a quelque temps, certainement encore maintenant, on peut se dire que d'ici quelques années ou dizaines d'années, ça n'existera plus, puisqu'on a démontré l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que je ne vois pas ce qu'on va pouvoir démontrer pour l'inceste dans les années futures, puisque on a déjà tout et on peut pas dire que c'est pas bien, puisque on l'a déjà dit et la loi est faite pour cela. Et je pense qu'il y a une difficulté, je pense à la démonstration vis-à-vis de la prise de conscience collective d'une société.
Ouais, mais je reviens un peu à ce que votre formule lapidaire, madame. Il y a ce qui libère et ce qui protège, hein, disiez-vous. Et je pense que sur les deux exemples, ou celui que tu évoquais sur celui de la pédophilie, en quoi est-ce que ça libère, en quoi est-ce que ça protège, en quoi est-ce que briser le tabou l'inceste libérait qui que ce soit ou quoi que ce soit? Ça libère des pulsions d'autodestruction et de destruction, des pulsions thanatos, dirait Freud. Ça ravage des corps et des âmes. C'est ça ce que ça fait, ça ne protège personne. Sur la question de l'homosexualité, en quoi est-ce que maintenir cet interdit légal, moral et lui donner même une dimension transcendante, sacrée ou naturelle, contre nature, ce que j'évoquais tout à l'heure, en quoi est-ce que ça protège quiconque? Bah, personne. Et est-ce que ça libère? Bah oui, bien sûr, ça libère. Donc je pense que quand même il y a un départ qu'on peut faire à partir du critère que vous avez évoqué. Sur la question de la pédophilie, ce que je sais pas, je suis vraiment... Enfin là, c'est quelque chose que je propose. Quand on fait un petit peu d'histoire ou d'anthropologie, on s'aperçoit qu'effectivement, le rapport sexuel de l'adulte à l'enfant... Alors d'abord, ça dépend ce qu'on entend par enfant. D'une société à une autre, l'enfant n'a pas le même âge, n'a pas le même statut. N'est pas nécessairement effectivement tabou, n'est pas nécessairement non plus destructeur. Ça peut sembler absolument scandaleux, hein, ce que je dis, et j'en suis bien conscient. Si vous prenez si vous considérez la civilisation grecque d'Antiquité, la pédophilie, elle est autorisée et même favorisée dans des situations très particulières. Elle n'est pas autorisée en tant que telle, elle est favorisée, autorisée dans le rapport du maître à disciple, Socrate, Alcibiade, pour prendre un exemple célèbre, donc dans le rapport de maître à disciple, en tant que mobile éducatif. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est bien ou mal, c'est-à-dire que les historiens de la Grèce antique, ou de la Rome antique, finalement, qu'est-ce qu'ils attestent dans l'examen des sources? C'est que, un, ce n'est pas condamné, deux, visiblement, l'organisation sociale l'autorise et le favorise, et que ça libère le potentiel éducatif. Je n'ai pas dit que c'était chouette, d'accord? Du tout, hein, d'accord? Je ne suis pas un grec de l'Antiquité. Et que précisément, c'est ce que disait Marie-France, jusque dans les années, finalement récentes, hein, même dans nos sociétés, on a pu valoriser un rapport de pédophilie, alors encore une fois, encore une fois, de l'âge de l'enfant, etc., pour ces raisons philosophiques et culturelles. Aujourd'hui, effectivement, à titre personnel, je dirais fort heureusement, mais c'est à titre personnel, c'est pas en tant qu'animateur de philo, on peut considérer. Daniel Cohn-Bendit, que vous connaissez, l'un des leaders du mouvement de 68, on a ressorti régulièrement des articles qu'il a publiés, lui et quelques-uns de ses collègues de l'époque, dans les années 70, hein, jusqu'au début des années 80, qui faisait l'éloge de. Enfin, l'éloge. Ouais, qui faisait l'éloge, en tout cas, qui brisait le tabou en disant, mais non, en fait, s'il y a consentement, etc. Enfin, voilà. C'est bien. Sauf que, franchement, je vais reprendre votre remarque, est-ce que ça protège Ben non, en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est tout le problème du consentement ici.
Il n'y a jamais de consentement dans ces actes-là.
Mais voilà, c'est ça, c'est jamais, voilà, ouais, c'est ce que je veux dire, voilà, c'est la chose. Il n'y a jamais de consentement. Il n'y a pas. Donc, ici, on a un interdit, c'est même pas un tabou, là, on a un interdit qui vise à protéger celui qui, même s'il consentait théoriquement, finalement, ne consent pas, parce qu'il n'a pas la capacité ou la maturité. Alors, oui, excuse-moi, j'ai trop parlé. Oula, je me tais. Hop. C'est-à-dire, je voulais vraiment pas trop. Juste une parenthèse, micro-parenthèse. Si vous reprenez la civilisation grecque auquel je fais référence, et notamment le personnage de Socrate dans ses relations avec Alcibiade, l'initiation philosophique, l'initiation à la sagesse, l'initiation à la vérité, enfin le chemin vers la vérité, passe par un travail sur l'âme et passe par un travail sur le corps, par une diététique et par une sexualité. Et finalement, il y a une initiation à la sexualité par le maître de son disciple, donc dans un rapport donc de pédophilie, qui est arc-bouté à une initiation à la sagesse. Finalement, c'est l'un des éléments du processus éducatif. Mais attention, le rapport ne se fait, enfin, le rapport pédophile n'est autorisé, n'est favorisé que dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que Socrate fait l'éloge à Alcibiade de sa beauté, etc. Enfin, voilà. Et que pendant des années, excusez-moi, je vais juste fermer la parenthèse, jusque dans les années 80 de ce siècle, enfin du 20e siècle, pardon, les traductions de Platon étaient corrigées par la main des traducteurs ou des censeurs en disant Alcibiade, il a 53 ans, il est majeur vacciné, machin, c'est pas l'homosexualité, machin, enfin voilà. Et donc, on a redonné à Platon ce qui était à Platon, à savoir un éloge de l'homosexualité et de la pédophilie dans certaines circonstances.
On ne peut plus l'entendre, ça.
On ne peut plus l'entendre, ça. Excusez-moi.
Je suis assez d'accord avec votre vision sur le fait que peut-être qu'on a tendance à dire, à désigner tabou beaucoup, beaucoup trop de choses, et que finalement, ça correspondrait à des trucs assez fondamentaux chez l'humain, et pas forcément à. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est très employé pour désigner beaucoup de choses qui ne seraient pas vraiment des tabous, mais juste. On parle du tabou de l'argent, on parle de.
Oui, brisons les tabous, ne mettons pas de cravate à l'Assemblée nationale.
Voilà, voilà. Et c'est vrai que la question que je posais, elle m'intéresse aussi dans le contexte actuel où j'ai l'impression qu'un petit peu trop facilement, le fait qu'on parle de tabou et du coup de sacré un petit peu partout, et que ça brouille un petit peu les limites de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on a le droit ou pas de penser, que assez bien on va briser telle chose, mais en fait. Et du coup, ouais, toute cette espèce de flou artistique. Alors, ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire de René Girard, La violence et le sacré.
Oui, voilà.
Et qui parle de crise sacrificielle qui est liée au fait que une indifférenciation violente. Peut-être que vous l'expliqueriez mieux que moi, mais en fait, tout est égal à tout, tout le monde est égal à tout le monde, toutes les positions sociales sont mélangées. Alors, il parle par exemple d'Œdipe qui couche avec sa mère et tue son père, du coup, il prend la place du mari et tout ça, et que de ce fait, de cette indifférenciation, Et ben, bon, en gros, ça fout le bordel. mais du coup, j'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans et que cette question de tabou et de sacré est un peu symptomatique aujourd'hui de ce qui se passe. Donc voilà, bon, j'élargis peut-être un petit peu le débat. Très
bien, je ne réagis pas maintenant sur la référence philosophique et anthropologique. Je préfère laisser la parole circuler.
Je voulais revenir sur les philosophes grecs et leur rite d'initiation, sans aller jusque-là, de façon très contemporaine. Moi, encore il y a 10 ans, bien avant, en thérapie, j'ai eu beaucoup de témoignages d'adultes, mais qui avaient été abusés jeunes, et très souvent, l'adulte, que ce soit inceste ou que ce soit quelqu'un de complètement étranger à la famille, avait cette idée de dire à l'enfant, mais tu me remercieras plus tard, parce que tu vas voir, je vais t'apprendre les bonnes choses, ça, oui. Sinon tu ne sauras pas. Mm-hmm. Heureusement que je suis là.
Oui,
c'est pas chez les Grecs.
Oui, non, mais et heureusement que...
Il est malade et il a toujours eu. Bah oui, ça s'appelle comme ça.
Monsieur, je veux bien faire reprendre après, mais la référence à religion. Mais... Oui. Prends le micro peut-être.
Quant à cet apprentissage sexué au début du siècle, c'est les papas qui emmenaient les enfants en bordel, hein, aussi. C'était coutume, quoi. Ça se faisait comme ça. Chez les Inuits, l'offrande au prêtre qui venait faire le prosélytisme, c'était la femme du chef. À Rome, ils ont un petit laïus pour autoriser, sinon pas de prosélytisme, ils étaient tués. Donc on sait s'adapter. La question, c'est finalement, quand on fait le total, qu'est-ce que le tabou pour qui? Il y en a plein qui disent, moi j'ai pas de tabou. Bon, d'accord. Et puis bon, il y en a qui sort du chapeau parce qu'on savait pas, mais. Je pense qu'au-delà de l'éducation, alors il y a le tabou intuitif dans l'ADN, le tabou d'éducation, je viens de dire au début, mais chacun passe sa barrière tout seul. Et en sexualité, on dit une fois qu'on a fait son tabou, il n'y a plus de tabou. Une fois polarisé, c'est plus un tabou.
Parce qu'il n'y aurait pas deux choses, c'est-à-dire d'une part les tabous liés aux sociétés, et puis les tabous qui concernent des problématiques extrêmement personnelles. Qui ça arrive à des gens, mais dans leur vie très très personnelle et très intime. Donc il y a ça, et puis à côté de ça, le tabou dont vous parliez, qui concerne un groupe ou une société, y a deux choses là-dedans. Et en fait, on a un petit peu voulu rendre général des problématiques qui se sont posées très très personnellement dans la vie de certaines personnes pour en faire presque une généralité, alors que ça reste dans la sphère du privé et puis de l'intime. Et à côté de ça, les tabous qui concernent les peuplades dont vous parliez, je pense qu'il y a deux choses très, très différentes là-dedans.
Oui. Quelques dernières remarques, parce que l'heure tourne. Monsieur, oui. L'enceinte fait un drôle de bruit.
Moi, ça me fait penser, les réflexions là, sur le tabou, à justement comment... On utilise justement ce flou par rapport au tabou, et je pense notamment à la violence. C'est que, bien souvent, la violence est tabou et on sait pourquoi. Mais de quelle violence on parle? Et souvent, on va dire, on pointe justement comme violent parfois des contestations, plus ou moins physiques ou même verbales, pour on va dire, envers par exemple les dominants, ou en tout cas un système des politiques, par exemple, qui nous gouvernent. Et là, on va pointer le finalement, vous êtes violent dans vos mots, vous êtes violent parfois dans la casse du matériel, etc. Et on parle rarement de la violence des dominants. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, le flou des mots et le jeu des mots, la novlangue, etc., fait aussi que on nous embrouille un peu l'esprit dans de quoi on parle quand on parle des choses et comment aussi les mots sont une véritable arme. Et du coup, effectivement, si on brandit le mot violence, tabou, évidemment, on pointe le doigt et on empêche peut-être des choses justes de s'exprimer.
Oui, ce que vous évoquez pour terminer, c'est que finalement, ce que vous évoquez en tout début de séance, hein, c'est que la carte du tabou, celle que je sors comme ça en disant tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas te permettre de, parce que sinon c'est un sacrilège, parce que sinon c'est une profanation, parce que sinon c'est un manque de respect, c'est peut-être et d'abord et surtout dans n'importe quelle société l'arme ou la carte qui est aux mains des dominants. C'est-à-dire, c'est une façon de maintenir un ordre social qui profite à quelques-uns. Les pires d'entre nous, disait Daniel Robert Dufour lors de sa conférence. Donc, maintenir un ordre social qui oppresse ou qui aliène ou qui exploite une partie de la population en disant non, tu ne touches pas à ça parce qu'en fait, le roi, le corps du roi est sacré, parce que ma personne est sacrée, disait un certain responsable politique contemporain. Parce que ce lieu-là est sacré, parce que cette banque est sacrée, parce que ce restaurant, le Fouquet's, est sacré, référence à l'épisode des Gilets jaunes, qu'on a vite considéré comme des casseurs, des profanateurs, etc. Ils portent atteinte à l'Arc de Triomphe, rendez-vous compte, à la Marseillaise de l'Arc de Triomphe. Autant, finalement, de réactions sociales ou socialement construites, en tout cas relayées par des médias puissants, qui vise peut-être, je suis pas sûr de penser, qui vise peut-être à maintenir un ordre social qui profite à certains et dont d'autres nombreux sont victimes. Effectivement, le tabou c'est aussi un usage. On peut aussi, en faire un usage politique et social pour maintenir ou construire une domination.
Et religieux,
bien sûr. Mais justement, je voulais conclure. Sur cet aspect, sur une petite occurrence religieuse, non pas que je me transforme en prêtre, en imam ou en rabbin ou en pasteur, vraiment pas. Je suis professeur de philosophie, mais on connaît tous les tables de la loi, les 10 commandements. Nous avons les commandements qui sont référencé à l'organisation de la pratique religieuse, un seul Dieu tu honoreras, tu ne feras pas d'image de Dieu, et ça. Et puis on a les commandements que nous connaissons tous, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne convaincras point la femme de ton prochain. Bref, ces commandements que l'on retrouve donc dans un texte sacré, transmis par la transcendance de je ne sais qui, je ne sais quoi, qu'on appelle Dieu ou pas, et qui apparemment détermine le socle de la morale. Non pas l'éthique, elle est relative à des cas particuliers, pour ça qu'il y a des comités d'éthique, mais la morale. Vous voyez bien que ce qui se joue aujourd'hui dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, sur la question de l'aide active à mourir, s'il s'agit du suicide assisté ou de l'euthanasie active, c'est finalement le tu ne tueras point. La morale me dit, tu ne tueras point. Moi, je suis médecin, j'ai mon serment d'Hippocrate. Je suis là pour soigner, je suis là pour sauver des vies, je ne suis pas là pour donner la mort. Donc, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point la propriété d'autrui, etc. Et l'éthique, justement, elle nous dit, oui, mais tu ne tueras point, oui, mais qu'est-ce que tu fais de cette personne qui est dans une situation particulière, qui voudrait donner la mort, qui voudrait, mais qui n'en est pas capable, etc. Donc il y a cet ancrage finalement qui semble finalement universel, qui peut, on l'a dit tout à l'heure, prendre des expressions culturelles différentes, voire même opposées. Si je reprends l'exemple du traitement qu'on réserve à nos morts, on peut les consommer, on peut les enterrer, on peut les incinérer, mais toujours est-il qu'on ne les laisse pas pourrir sur le bord du chemin. Ou alors si on le fait, c'est qu'on porte atteinte aux lois non écrites dont parlait Antigone. Et puis il y a Saint Paul. Cette fois, je ne me transforme pas, vraiment, c'est pas du tout. Je ne suis pas. C'est pas du tout un prêche, hein, vraiment pas. Et puis il y a Saint Paul. Il y a Paul, si on ne veut pas parler de ça, si on veut qu'il soit ça ou pas. Il y a Paul. Il y a Paul qui nous dit, mais en fait, il n'y a qu'une seule loi. Il y a, ok, tu as tes 12 commandements, là, tu as tes 10 commandements, puis il y en a un 11e. Et le 11e, finalement, il se suffit à lui-même, il remplace toutes les autres. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Paul, il reprend ça au sermon sur la montagne du Christ, il nous dit, mais en fait, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé moi-même. Et Paul traduit, il n'y a qu'un seul commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et à partir de ce moment-là, qu'on soit chrétien, bouddhiste, athée, je m'en fiche, d'accord, on a le départ, la distinction que vous proposiez, madame, tout à l'heure, de manière extrêmement pertinente, entre le tabou qui protège et le tabou qui libère ou qui détruit. Est-ce que le comportement, la parole, l'attitude qui sera la mienne à titre personnel ou qui sera la nôtre à titre collectif, vous mentionniez tout à l'heure, monsieur, ces personnes qu'on laisse crever sur les bords de la route, il y en a aussi qui créent de grandes misères et on les laisse crever ainsi dans l'organisation sociale qui est la nôtre. Finalement, ici, la question, c'est est-ce que je suis dans une attitude qui, allez, on va le dire au sens chrétien, qui aime l'autre, pas aimer au sens. C'est l'agapé, hein, en grec, c'est la charité. Est-ce que finalement, mon attitude est au service de l'autre, ou au service des intérêts des plus puissants, au service de mes intérêts du moment, purement égoïste, libidineux, pulsionnel, j'allais dire dégueulasse, quoi, pour le dire de manière un peu vulgaire. Ou est-ce qu'au contraire, ce tabou-là, cet interdit-là, ce « je ne dois pas le dire, je ne dois pas le faire », il me permet de fonder une société qui respecte chacun de ses membres et chacune de ses membres. Et finalement, c'est ça finalement le message paulinien, le message de Paul, d'accord, c'est finalement de transformer le tabou comme étant un interdit, référence à Freud, hein, totem et tabou, mais laissons les références de côté, donc transformer donc le tabou comme étant un interdit, le « tu ne dois pas », « tu ne tueras point », machin, en un tabou qui est finalement un appel. Pourquoi tu ne dois pas tuer ? Parce que tu dois aimer. Pourquoi tu ne dois pas voler ? Parce que tu dois aimer. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas maltraiter un enfant dans tous les sens du terme ? Parce que tu dois l'aimer et lui imposer un rapport sexuel pour son bien, etc. C'est de maltraiter. Et finalement, c'est ça, finalement, le « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n'y a qu'un seul commandement, dit Paul, c'est l'amour. Et peut-être que c'est ça, c'est-à-dire que celui qui ne respecte pas ce commandement-là, cette obligation morale, ce n'est pas forcément un commandement sacré au sens de la transcendance, hein, qui viendrait d'en haut, de je ne sais où. Briser ce tabou-là, c'est briser l'humanité dans son cœur même, c'est briser toute forme de société. Et c'est se briser soi-même. C'est aussi l'un des messages de Paul, c'est qu'on ne sort pas indemne soi-même du tabou de l'amour, du tabou de la charité, du tabou du respect que l'on doit à autrui, que l'on a profané. On en est soi-même, finalement, brisé. Et que s'il n'y avait qu'un seul tabou à maintenir, et c'est celui qui ensuite va finalement s'exprimer de différentes façons, sur l'inceste, etc., sur le droit des homosexuels à mener une vie libre et heureuse, à fonder une famille, à avoir des enfants, s'il n'y avait qu'un seul tabou finalement à conserver, ça serait celui de l'amour que l'on doit à soi-même, à son prochain, et je me permets d'insister parce qu'on ne l'a pas évoqué, et vous l'avez évoqué, à la vie, à la vie. Non, non, je n'ai pas dit ça. Enfin, je me suis même mal exprimé alors. L'idée que je voulais, sur laquelle je voulais terminer, c'était la seule obligation que je me dois de respecter, c'est l'amour que je dois à moi-même, à autrui, à mon prochain et à d'autres êtres avec lesquels je vis, à savoir des non-humains avec la vie. Puisque finalement, tout le reste en découle. C'est ce que dit Augustin, enfin saint Augustin, qui lui-même a été sanctifié, aime, si on repense à Paul, hein, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. À partir du moment où c'est la charité, c'est le respect de Dieu à l'autre et à toi-même que tu as en ligne de mire, que tu te donnes comme point final, comme finalité, alors tu peux faire tout ce que tu veux, puisque finalement, tu ne seras jamais dans la malveillance, dans la manipulation, dans la maltraitance. Tu ne seras jamais dans l'indifférenciation des violences. Il y en a qu'un, finalement, c'est ne jamais aller contre le respect qu'on doit à l'autre, ce qu'on appelle l'amour. Bien, je vous invite à partager quelques petits gâteaux et autres substances.